Bonsoir à tous. Laurent, pendant l'offrande, a parlé de la fidélité de Dieu pour les finances, mais Dieu est fidèle en tout. Et j'ai été interpellée ces derniers temps par le Seigneur pour me demander quelle était ma confiance en lui. J'ai la foi en Dieu, je crois, mais dans les circonstances qu'on vit parfois, est-ce qu'on va jusqu'au bout de la confiance? La confiance, la fidélité, la foi, c'est tout le même mot à peu près. Il y a des petites différences. Mais quand on fait confiance à quelqu'un, on s'abandonne. On s'abandonne, on abandonne ce qui nous appartient. On se repose, on se met sous l'influence de cette personne. Et on va jusqu'à se livrer à elle. Et parfois, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas tout à fait ça. Dans Jérémie 17, 5 à 8, c'est un passage qui est bien connu. C'est écrit ainsi par l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » On fait confiance aux personnes, mais je me confie en Dieu. Je ne mets pas ma confiance dans l'être humain, même si c'est quelqu'un qui est très bon comme ça. Dieu nous demande de lui faire mettre notre confiance entièrement en lui. Mais souvent, par exemple, si on est malade, tout d'un coup, on met notre confiance dans la médecine. On peut faire confiance au médecin, mais que notre confiance reste toujours en Dieu. Et j'ai regardé un peu dans la Bible si les gens avaient toujours fait confiance, mis leur confiance entièrement en Dieu. Et particulièrement dans le livre de Job, mais j'ai aussi regardé d'autres personnes, ce qu'elles avaient fait. Et j'ai été interpellé par Abraham et Sarah. Abraham, à 75 ans, il reçoit de Dieu la promesse qu'il aura un fils. 10 ans après, il a 85 ans, mais il n'a pas de fils. Et pourtant, Abraham a cru. Il avait la foi que Dieu lui donne un fils. Et c'est là que sa femme lui dit, « Mais écoute, prends ma servante. » Tu auras un fils au travers d'elle. C'est vrai que dans la Bible, ce n'est pas précisé si Dieu avait dit à Abraham, tu peux avoir un enfant avec une autre ou avec ta femme. Mais dans la logique, c'était avec sa femme qu'il voulait qu'il ait un enfant. Et il y a Ismaël qui est né. Abraham avait 86 ans à la naissance d'Ismaël. Mais il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des disputes, des jalousies, il y a eu du mépris entre Sarah et Agar, sa servante, parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Pourtant, Abraham a cru. Et c'est à 99 ans que Dieu lui rappelle la promesse. Et Abraham a 100 ans quand son fils vient. Malgré le dérapage d'Abraham, Dieu a quand même accompli la promesse qu'il avait faite. Et pour nous, il a aussi des promesses. Et quand je reçois une promesse, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de l'accomplir? Est-ce que j'essaye d'aider Dieu, si toutefois il a oublié? Si toutefois il pense que maintenant c'est plus de mon âge? Si il pense que j'en suis pas capable? Mais non, Dieu, il accomplit sa promesse. C'est dans Habacuc qu'il y a une prophétie. Et le prophète dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. La prophétie, la promesse de l'Éternel ne ment pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et le petit dérapage à Abraham, avec Ismaël, encore des conséquences aujourd'hui. Et combien de conséquences est-ce qu'on a des fois dans notre vie à cause d'un petit dérapage? Même si Dieu, après, accomplit sa promesse. Et puis, j'ai quatre personnes en tout où j'ai relevé des choses. Moïse, à la sortie d'Égypte, le peuple a vu tous les miracles qui ont été faits. Il a vu les plaies d'Égypte. Le peuple a vu le passage de la mer Rouge. Il a traversé la mer Rouge. Le peuple a eu les écailles, la manne. Ils ont vu l'eau du rocher, l'eau de Mara qui est devenue douce aussi. Et Moïse, Dieu l'appelle à la montagne parce que Dieu voulait lui donner ses lois. Et la montagne était fumante. Il y avait le tonnerre, il y avait la trompette, je crois aussi. C'était bruyant. Le peuple était au pied de la montagne. Et le peuple a dit non, Moïse, nous on rentre. Écoute ce que Dieu veut te dire et après tu nous diras ce qu'il voulait. C'est vrai qu'il a mis 40 jours là-haut, Moïse, mais le peuple a été dire à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, parce que Moïse est parti et on ne sait pas ce qu'il est devenu. On n'a plus de nouvelles de Moïse, alors on a besoin d'un autre Dieu. Et ils ont fait un veau d'or. Et pourtant, ils avaient vécu des grandes choses avec Dieu, ils avaient vu tout ce que Dieu avait déjà fait. Et j'ai dit, mais combien de fois on a vu ce que Dieu a fait et tout d'un coup on est impatient. Je crois que la confiance en Dieu, il faut de la patience avec. Dieu nous la donne, la patience. Ce n'est pas facile, mais il nous la donne parce qu'il veut notre bien. Quand le peuple attendait simplement Moïse, pour eux ça pouvait être un temps de repos. Je ne veux pas dire qu'ils ne devaient rien faire, mais un temps d'attente de Dieu. Être à un endroit et s'attendre à Dieu, attendre à ce qu'il va faire, attendre ce qu'il va dire. Et c'est déjà rien que le fait de savoir que Dieu va nous parler, c'est un bon moment. Mais le peuple a voulu autre chose. Et puis j'ai dit finalement, souvent, au lieu d'attendre que Dieu nous parle, on commence quelque chose. On peut même commencer une activité pour l'Église qui est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. On se met dans quelque chose qui va prendre notre temps. Enfin, ça serait assez moi de faire quelque chose que je ne dois pas faire, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de dire oui, c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas ce que Dieu me demande, au lieu d'être là et d'attendre ce que Dieu veut exactement. Et pour le peuple d'Israël, il pouvait dire, mais il a été délivré, il pouvait être plein de confiance, il pouvait louer Dieu pendant ce temps dans le désert. Il a été sauvé de l'esclavage. Il a pu puiser de l'eau à la source. Mais il n'a pas attendu pour écouter Moïse, ce que Dieu voulait leur transmettre au travers de Moïse. Et la troisième personne que j'ai regardée, c'est David. David a été oint par Samuel pour être roi à la place de Saül. Dieu l'avait déjà choisi pour être roi et il avait rejeté Saül. Dieu ne voulait plus de Saül comme roi. Et qu'est-ce qu'il a fait, David ? Il a dû fuir. Il a passé, je crois, plusieurs années à fuir parce que Saül voulait le tuer. Et pourtant, deux fois, David aurait pu tuer Saül. Une fois dans une caverne, et la deuxième fois, je crois que Saül dormait, David aurait pu le tuer facilement. Mais David a dit non. Non, je ne le toucherai pas. Je ne veux pas faire du mal parce que Dieu l'a oint avant moi. Je ne prendrai pas la vie de Saül. Et David s'est dit, je m'approche de Dieu, c'est mon bien, et je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. David n'a pas toujours été parfait. David a péché, mais il n'a jamais pris la place de Saül, il a attendu. La patience et cette confiance que David avait en Dieu, il savait qu'il allait être roi et c'est Dieu qui l'a fait roi. C'est Dieu qui l'a élevé. Il ne s'est pas élevé lui-même. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un dont on parle encore, David. Il est connu, même chez des non-chrétiens. Ils connaissent le roi David. Il a gagné ses batailles et personne n'a jamais pu prendre sa place. Il y a eu des complots contre David, mais jamais personne n'a pu l'enlever du trône. Et c'est lui qui a placé après son fils Salomon sur le trône après lui. Et il a fait une promesse à David, Dieu. Il lui a dit, ton trône est un trône éternel et il y aura toujours un descendant sur le trône. Et ce descendant, c'est Jésus. Même si on ne le voit pas de nos yeux comme ça maintenant, mais Jésus est sur le trône et il ne règne pas seulement sur Israël, parce que la terre entière lui appartient. Et cette confiance que David a eue en Dieu, ça a été une récompense pour lui. Il a été jusqu'au bout, il a attendu. Et le quatrième, dont je vais vous en parler un peu plus longtemps, j'ai relu toute son histoire, je ne vais pas vous la lire parce qu'il y a 40 chapitres, mais c'est Job. Job, il était intègre, droit et il craignait Dieu, et très riche. Un homme d'affaires, il avait du bétail, toutes les terres autour du pays où il habitait étaient remplies de ses animaux. Et c'est Satan qui va trouver Dieu et qui lui dit, Dieu dit à Satan, mais regarde Job comme il est bien. Dieu était fier de Job, regarde comme il est bien, regarde comme il me craint, regarde comme il est droit. Et Satan dit à Dieu, mais prends-lui ses affaires, tu verras, c'est dans son intérêt qu'il est comme ça avec toi, mais tu bénis tout ce qu'il fait. Et Dieu lui dit, tu peux enlever ce qu'il a. Et en peu de temps, il a perdu tous ses biens et ses 10 enfants. Et Satan retourne vers Dieu et Dieu lui dit, tu vois Job, malgré tout ça, il est toujours là, il est ferme, il se détourne du mal. Tout ce qu'il a dit, Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et Satan lui dit, oui, mais alors touche à son corps. Et Dieu lui dit, je te le livre entre tes mains, mais ne prends pas sa vie. Et là, Job a eu un ulcère malin qui est allé de la tête aux pieds. Il n'avait plus rien, il était malade, il avait des souffrances atroces, il ne pouvait pas se coucher, même quand il était couché, il avait des cauchemars, il avait des terreurs la nuit, tout allait mal. Et en plus de ça, sa femme lui dit, mais maudit Dieu, puis meurs, et puis comme ça c'est bon, on est débarrassé, tout ira bien après. Mais à Job, il lui reste des amis. Il a 3 amis qui sont venus le trouver, puis un 4e après. Et Job, ses amis sont restés 7 jours avec Job sans rien lui dire. Il faut le faire, 7 jours sans parler, c'est beaucoup. Et c'est Job qui a commencé à parler. Et Job croyait que tous ses malheurs venaient de Dieu. Il ne savait pas que ça venait de Satan. Il était sûr que c'était Dieu qui était contre lui. Et Job commence à parler à Dieu, mais pourquoi est-ce que je suis né? Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas mort né? Pourquoi toutes ces choses? Il a dit, je suis plein d'amertume. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la grâce, et voilà ce que tu fais de moi maintenant. Il était découragé et tout, et ses amis lui ont dit, mais toi avant, tu encourageais les autres, tu les relevais, tu prenais soin des autres, puis aujourd'hui que tu es mal, tu te plains. Et ce que ses amis ont continué à lui dire, repens-toi, reconnais que tu as péché, reconnais que tu es injuste. Ton injustice, tu as semé l'injustice, eh bien Dieu, il est aussi injuste avec toi. C'est de ta faute, quoi. Tu dois te repentir. Et Job, ses amis et Job étaient persuadés que les malheurs venaient de Dieu. Mais Job s'est justifié. Il a dit, mais je n'ai pas de péché, je n'ai rien fait. Il a même dit à Dieu, montre-moi si j'ai un péché. Et le problème avec Job, c'est que Dieu était absent. Dieu ne l'entendait pas. Job a cherché Dieu et il ne l'a pas trouvé. Dieu, c'est que, comme hier, pendant l'orage, il n'y avait pas de soleil, mais le soleil était toujours là, il était juste caché. Et Dieu a fait la même chose avec Job. Et parfois avec nous aussi, on prie, on a quelque chose, on attend, et puis Dieu n'est pas là. On a l'impression qu'il est absent, on sait au fond de nous qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent, mais on ne le sent pas. On cherche Dieu. Et là, j'ai relevé quelques versets que Job a dit, quelques paroles qu'il a dites, parce que ces paroles m'ont encouragée. Quand il est dans l'amertume et la révolte et qu'il se plaint, il dit à Dieu, je ne me sens pas coupable. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu m'as fait tout entier. Et j'ai pensé, qu'est-ce que je dis moi quand je suis dans la souffrance? Qu'est-ce que je raconte à Dieu? Mais Dieu n'est pas fâché. Job a été très violent dans ses paroles avec Dieu par moments. Mais Dieu ne s'est jamais fâché, mais il ne lui a pas répondu non plus. Et Job pensait vraiment qu'il allait mourir. Dans l'état où il était, il n'avait plus d'espoir. Et j'ai plusieurs versets là, mais je ne sais pas les références. Il a dit à un moment donné, « Voici, Dieu me tuera. Je n'ai plus rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite, parce que cela même peut servir à mon salut. Car un impie n'ose pas paraître en sa présence. » Dieu parle de sa mort, il dit, Job parle de sa mort, il dit je n'espère plus rien, donc il pense qu'il va mourir. Mais une fois mort, il veut défendre sa conduite, il veut défendre sa cause devant Dieu. Il a gardé cette espérance en Dieu, il a gardé cette confiance en Dieu. Même si je suis mort, je pourrais me justifier devant Dieu. Parce que Dieu m'écoutera à ce moment-là. Il faut juste que je le trouve. Et les amis à Job sont toujours là, ils remettent toujours des accusations. Ils lui disent même qu'il n'a jamais eu de compassion pour les pauvres, pour la veuve, l'orphelin. Et pourtant, Job a toujours aidé les autres. Et de plus en plus, Job souffre. On le voit quand on lit, en suivant ce livre de Job, qu'il a de plus en plus des douleurs insupportables. Mais il continue à parler à Dieu, à un Dieu qu'il ne sait pas où il est. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de sentir le vide, l'absence de Dieu, mais Job continue à parler. Et il dit à Dieu, « Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. » Job dit, « Mais même si je suis dans le séjour des morts, mais dis-moi, jusqu'à quand? Est-ce que j'en ai encore pour 3 jours à souffrir? Pour 6 mois? Pour plusieurs années? Dis-moi, parce qu'un jour, tu te souviendras de moi. » Job savait que Dieu allait se souvenir de lui à un moment donné. Il avait cette confiance, « Dieu ne m'a pas oublié. Un jour, il se souviendra de moi. » Et quand on prie pour des situations qui durent longtemps, un jour, Dieu se souvient de nous. Et il est là, mais finalement, il se souvient chaque jour de nous, parce que chaque jour, il veut nous soutenir, chaque jour, il nous aide. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. On est tellement pris par ce qu'on vit qu'on ne pense même plus que Dieu se souvient de nous. Et quand j'ai lu ça, que Job lui disait, « Un jour, tu te souviendras de moi », le brigand qui était sur la croix avec Jésus lui a aussi dit, « Souviens-toi de moi ». Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Et Job après dit, mon témoin est dans le ciel. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Il est dans les lieux élevés. Il ne savait pas où il était, mais il savait que son témoin était dans les cieux. Il est contradictoire, mais il a toujours ce retour à Dieu. Tout ce qui se plaint entre Dieu, je n'ai pas mis toutes les plaintes, je ne vais pas vous lire toutes les plaintes à Job parce que c'est long, mais entre ces plaintes, à tout moment, il revient et il dit, mon témoin est dans le ciel, il est dans les lieux élevés et c'est ce Dieu-là que j'implore. Et il va jusqu'à dire, puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu? Dieu peut-il me donner raison à moi contre lui? C'est ce qu'il lui dit. J'ai trouvé cette confiance, même que Job n'avait pas raison en tout, parce que ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé ses problèmes et tout. Mais est-ce que Dieu ne peut pas me donner raison à moi contre lui? Et il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand on sait qu'on a un Dieu vivant, il y a eu beaucoup de dieux sur cette terre, il y a toutes sortes de dieux qui ont vécu, mais il n'y en a qu'un qui est mort et qui est ressuscité, et qui est Jésus. Et on a un Dieu qui est vivant, et Job le savait. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc, quand il sera mort, il dit, même si je suis mort, je sais que mon Dieu se lèvera le dernier sur la terre et il me sera favorable. Il croit encore, même après sa mort, à la faveur de Dieu. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Et moi, je dis, j'aimerais avoir des fois cette conviction dans certaines choses, quand ça dure longtemps. Mais oui, je fais encore confiance à Dieu. J'ai prié, ça ne marche pas, mais je fais encore confiance. Je vais rappeler ma présence à Dieu. Je vais lui rappeler que je suis là. Et je garde cette confiance. Je veux vraiment garder cette confiance en tout temps en Dieu. La foi, je m'attends à quelque chose, mais je veux garder ma confiance en Dieu. Et Job dit de nouveau, mais si je savais où le trouver, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause. Il cherche Dieu dans sa souffrance. Il n'arrête pas de chercher Dieu parce qu'il sait que c'est le seul, c'est l'unique qui peut lui aider. Et dans Hébreux 4, 16, c'est écrit, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. » Ce n'est pas le trône du jugement, ce n'est pas le trône de la condamnation ou de l'accusation, mais Dieu a pour nous un trône de grâce où on peut s'approcher aussi. Un trône de grâce où il s'est écrit pour trouver grâce et pour être et sa miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Le trône de Dieu, il est là où on est. Quand on parle à Dieu, quand on se met à genoux devant lui, quand on l'appelle, on s'approche du trône de Dieu. Et plus on s'approche, eh bien, Dieu se réjouit de nous voir arriver. Il est toujours content quand on vient vers lui. Et une des dernières choses que Job dit, « Dieu qui me refuse justice est vivant. » Il attend la justice de Dieu. « Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. » Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison, il le dit à ses amis, qui le critiquent toujours. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence, je tiens à me justifier, je ne faiblirai pas, mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. » Et c'est vrai que Job était juste et intègre devant Dieu. Mais les paroles qu'il a prononcées n'étaient pas toujours justes. Mais il garde cette confiance en Dieu jusqu'au bout. Pour Job, je me dis, dans ces moments-là, il devait sentir venir sa mort. Il n'avait plus beaucoup d'espoir de vivre, mais il gardait entièrement cette confiance en Dieu. Et mon désir, c'est de garder cette confiance entière en Dieu, quoi qu'il arrive. De revenir chaque fois à cette confiance. Et il y a une grande chose là-dedans, c'est que Job faisait confiance à Dieu, mais Dieu a fait confiance à Job. Il a accepté que Satan lui fasse toutes ses misères parce qu'il savait que Job ne le renierait pas. Il savait que Job resterait fidèle. Et Dieu nous fait confiance, même si on n'est pas toujours juste, même si on se trompe, même si on fait des erreurs, Dieu continue à nous faire confiance. Et Dieu répond à Job au bout d'un moment. À partir du chapitre 38, Dieu parle à Job. Mais il lui parle de sa création. Il lui dit, est-ce que tu sais comment j'ai créé? Est-ce que tu sais comment j'ai fait? Est-ce que tu étais là quand j'ai ordonné au soleil, sa course, à la lune, ce qu'elle devait faire. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé les animaux? Et Job lui répond, au dernier chapitre, Job répond à Dieu. Et il lui dit, mon oreille avait entendu parler de toi. On a entendu parler de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il a compris. Et Job dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Et Job reconnaît que ces paroles qu'il a dites devant Dieu n'étaient pas tout à fait justes. Et Dieu lui pardonne. Et le pardon de Dieu va si loin qu'il dit aux amis de Job qu'eux, ils n'ont pas du tout parlé selon Dieu. Et il a dit, c'est Job qui va prier pour vous, pour que vous puissiez être pardonnés. Et cette histoire de Job, il y a même Jacques qui en parle. Et Jacques, dans Jacques 5, 11, c'est écrit, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde. » C'est vrai qu'après, Job, il a eu le double de bétail. Il avait 7 fils et 3 filles et il a de nouveau eu 7 fils et 3 filles. Et puis, je vais juste faire une parenthèse, c'est que les filles de Job, dans la Bible, il y a toujours les prénoms des garçons, le prénom des hommes, des fils. Ils ne mettent pas ceux des filles, c'est très rare. Mais on n'a pas les prénoms des fils de Job, mais on a les prénoms des filles. Une, elle s'appelle Yemina. Et j'ai regardé, il y a plusieurs définitions. Il y a quelque chose là-dedans, mais je ne peux pas vous dire. Mais il y a une raison pour qu'il ait donné ses prénoms. La première s'appelle Colombe, ça veut dire pure aussi. C'est belle comme le jour, c'est le parfum de la terre, la colombe. La deuxième qui s'appelle Ketsia, c'est fleur de cannelle, c'est de la casse, du jasmin. Et la casse, c'est ce qu'il devait mettre dans l'huile sainte, l'huile d'onction qui était particulière, qu'il ne faut pas refaire. Et la troisième qui s'appelle Kerenapuk, c'est rayon de soleil, lumière, et c'est aussi flacon de nard. Le nard, c'est un grand parfum. C'était très connu à l'époque. Il leur a donné, les prénoms des filles sont là, et je dis, il y a une raison pour que ce soit là, mais je n'ai pas encore tout compris, alors vous pourrez chercher. Mais relisez le livre de Job, du début à la fin. Il y a toutes les lamentations, il y a tout ce qui ne va pas, il y a toutes les accusations, mais il y a tout ce que Job dit, cette confiance qu'il fait à Dieu. Jusqu'où va ma confiance ? J'ai un Dieu, c'est le Dieu de ce qui est impossible. On peut faire beaucoup de choses, on a beaucoup de possibilités, mais on a des impossibilités dans nos vies. Et ce Dieu-là, il est celui qui peut faire l'impossible et il veut faire l'impossible pour chacun de nous. Il y a un lépreux qui s'est approché de Jésus et qui lui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui a répondu, je le veux. Et comme il l'a voulu pour ce lépreux, il le veut pour nous encore. Il veut nous rendre purs aussi. Alors on est pardonné si on a accepté Jésus dans notre vie, si on lui a dit qu'on lui donnait notre vie, si on s'attend à lui, on lui demande pardon, il pardonne nos péchés. Mais souvent, on a des fausses pensées, on a peut-être eu un enseignement faux. On a mal compris quelque chose, on entend des choses, on lit les journaux, on lit des choses qui ne sont pas bonnes et qui viennent polluer nos pensées, qui viennent nous polluer dans notre vie. Et Dieu veut nous rendre purs. Chaque jour, il veut nous purifier de ce qu'on entend. Les médecins disent des fois, bon, on ne peut plus rien faire. Mais Dieu, il dit non, moi je peux. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas guéries, mais ce n'est pas notre problème. Dieu veut guérir, Dieu veut sauver. Tout le monde n'est pas sauvé, mais le plan de Dieu, c'est encore de sauver. Il veut encore délivrer. Et surtout, il veut nous faire confiance. Il nous a confié son Église. On fait partie de son Église. Ce n'est pas un bâtiment. On fait partie de sa famille. On est accepté dans la famille de Dieu. Il nous fait confiance. Quand on a des enfants, on leur fait confiance. Des fois, c'est difficile, mais on leur fait confiance de nouveau. Et ce Dieu nous fait confiance, comme il a fait confiance à Job, comme il a fait confiance à David. Jésus a fait confiance à Pierre, pourtant Pierre l'a renié, mais il a fait confiance. Tu m'as renié, mais maintenant ça va aller. Il a fait confiance à ses disciples, il fait confiance à son Église aujourd'hui pour qu'elle amène la gloire de Dieu sur cette terre, pour qu'on prie pour les gens qui ne le connaissent pas, pour se faire connaître. C'est à nous qu'il fait confiance, à chacun. Et il veut le meilleur pour chacun. Alors, il veut le meilleur pour chacun, comme il l'a voulu par Job, mais je n'ai pas envie de passer par les problèmes de Job. Mais il veut le meilleur pour chacun de nous. Il veut qu'on puisse aussi dire, maintenant, on t'a vu. Maintenant, on sait exactement qui tu es. Il veut être connu. Il y a dans Osée 6, c'est écrit, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Si on connaît, pourquoi encore chercher à connaître? Parce que Dieu, on ne le connaît pas assez. On a besoin de le connaître plus. On le connaît avec notre intelligence, mais il faut le connaître avec le cœur. Et pour connaître Dieu avec le cœur, il faut connaître son cœur. Il faut qu'il puisse travailler en nous. Chantal avant a lu dans Jean cette prière de Jésus. Et un endroit, après le verset 20, quand il dit « Ce n'est pas seulement pour eux qui sont là maintenant que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en ma parole. » Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Jésus veut être en nous. Et Jésus est en Dieu, donc on est en Dieu. Cette unité qu'on ne peut pas expliquer, mais être un avec Jésus, entendre ce qu'il dit, voir ce qu'il fait, voir ce que Dieu a prévu pour nous. Ses promesses sont oui et amen, mais il ne faut pas qu'on les accomplisse nous-mêmes. Parfois, il faut attendre. Parfois, c'est long. Mais Jésus, avant de partir, a dit « L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, vous conduira dans toute la vérité, dans tout ce qui est bon. Il nous conduira dans tout ce qui est dans la vérité de la parole de Dieu, mais il nous conduira aussi dans la vie, dans la vérité. Il nous conduira dans ce qui est bon pour être qu'on peut choisir pour nous, dans ce qui est bon, dans ce qu'on fait. Il veut nous conduire dans... Ouais, qu'on puisse vivre, que notre vie vive la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit avec Jésus. Et il y a la vérité, mais Jésus est la vérité et il vit en nous. Qu'on puisse vivre une vie de vérité dans tous les domaines de notre vie. Même des domaines qui ne sont pas spirituels. Et qu'on puisse vivre cette vie. Job a déballé tout son cœur à Dieu. Et Dieu, il a apprécié. Même s'il s'est trompé. Même s'il a cru que c'était Dieu qui lui envoyait tous ses malheurs. Il l'a compris après. Mais Dieu a apprécié. Et il apprécie quand on lui parle. Il apprécie quand on lui dit ce qu'on pense. Il apprécie, même si on se trompe, mais qu'on lui parle, il va nous corriger. Il va nous... dire, ben là, ce n'est pas juste. Et une des façons que Dieu a de nous parler, c'est au travers de sa parole. C'est du passé, Job. C'est très vieux. Mais sa confiance qu'il avait en Dieu et la confiance que Dieu avait en lui, elle m'a parlé. Et j'ai relu le livre de Job dernièrement dans une autre version pour le comprendre autrement. Je vais vous dire, la première fois que j'ai lu le livre de Job, j'ai trouvé que c'était très lourd, très pénible. Et maintenant, je trouve que c'est très bien, que ça encourage. Et pour finir, je vais vous laisser un verset dans Hébreux 12. Il parlait avant de la foi. de tous ceux qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, parce que Dieu avait quelque chose de meilleur en vue pour eux. Et le chapitre 12 dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins, c'est tous les anciens de la Bible, tout ce qui était écrit, qui est pour nous, pour nous faire du bien, pour nous faire avancer, pour nous faire grandir en lui. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ne pas se lasser de Dieu, mais fixer les regards sur Jésus, quelle que soit la situation, et avoir confiance qu'il règne, même si on n'a pas l'impression, mais il règne, il est là, et il nous aime, et il prend soin de nous. Il a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse être sauvés. Et c'est le cadeau qu'il nous fait. On va simplement regarder à lui à chaque instant.
C'est bon de voir comment Dieu voit les épreuves que nous traversons. Et avec ce livre de Job,